Eh bien, bonjour, bienvenue sur Aligre FM et dans l'émission Philosophie au présent. Nous sommes en direct, Nathalie Perrin.
Stéphanie Ronchetti.
Eh bien, voilà, c'est un partenariat depuis 5 ans avec le Collège International de Philosophie et Aligre FM. Et ma foi, ça se passe très bien, Stéphanie, n'est-ce pas? Sauf qu'aujourd'hui, il nous manque un troisième larron. C'est Michele qui nous écoute de l'Italie. Saporiti, qui est aussi chercheur au Collège International de Philosophie. Et nous avons le plaisir aujourd'hui, alors moi c'est un plaisir tout personnel, voilà, de parler de quelque chose qui me tient à cœur, qui est le tango et la question du soin. Avant de présenter nos invités, deux petites citations. Le tango est une expression directe de quelque chose que les poètes ont toujours essayé d'exprimer avec des mots. La croyance qu'un combat peut être une célébration, c'est Georges-Louis Borges. Une autre citation de Martin Buber. L'âme n'est pas vraiment unie, à moins que toutes les énergies corporelles, tous les membres du corps, ne soient unis. Martin Buber, je le disais à l'instant, et je remercie Sylvain, qui se reconnaîtra, qui est aussi un danseur de tango. Et nous avons l'immense plaisir aujourd'hui dans cette émission, pour traiter la question du tango et du soin, d'avoir un artiste, Reza Abadissareï. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Bonjour Reza. Et puis nous avons Samy Amadouche, qui est chercheur en neurosciences. On va peut-être déjà vous laisser vous présenter. Reza, tu veux commencer te présenter comme un... Voilà, je t'ai présenté comme artiste. Moi, on s'est connus parce que tu m'apprends à mieux danser le tango. Voilà. Quel type de tango tu enseignes? Tu le décrirais comment, ton tango?
Bonjour.
Bonjour.
je me présente comme danseur de tango, quelqu'un qui pratique le tango.
Oui.
Et alors, quel type de tango? Pour être honnête, j'aime pas trop parler des types de tango, parce qu'on en parle, mais selon des moments, selon la musique, selon les partenaires, selon envie, ça peut ressembler à des différents types de tango. Donc,
moi, ce que je sais avec toi, ce que j'aime avec toi, c'est la pratique, et on y reviendra, du tango milonguero en abrazo cerrado. Donc ça, on sera amené à en reparler. Mais je sais que ces dichotomies, tu ne les apprécies pas forcément non plus. Tu ne penses pas le tango nécessairement en termes de abrazo fermé ou abrazo ouvert?
Je pense que c'est plutôt ce que je pratique.
Oui.
En même temps, je n'ai pas trop envie de cloisonner.
Oui, oui.
Pour différentes raisons.
Oui, on en reparlera. Tu es venu au tango de quelle manière? C'est une passion pour toi?
Oui, j'étais danseur avant de commencer à faire du tango et vraiment rencontrer le tango, notamment la danse contemporaine. Je faisais d'autres danses de couple, on peut dire.
Oui.
Mais à un moment, je savais que je vais essayer le tango. Et quand j'ai rencontré vraiment le tango, c'était la dernière danse que j'ai rencontrée.
Ah,
et
oui.
C'est devenu maintenant pratiquement la seule danse que je pratique.
Oui. Et tu es venu à Paris pour cette danse-là, ou tu étais déjà sur Paris? Nous te connaissons sur Paris.
Oui, oui, ça fait un peu plus qu'un an que j'habite sur Paris.
Et c'est le tango à Paris que tu as appris?
Je suis venu pour mon travail, qui est enseigner le tango. Et aussi, c'est vrai qu'à Paris, on a beaucoup de chance de pouvoir beaucoup danser. Une communauté de tango assez extraordinaire.
Oui. On dit qu'il y a deux grandes villes au monde, hein. Buenos Aires et Paris, et que Paris est la menthe. Hein. Voilà. Alors voilà, notre premier invité que nos auditeurs ont entendu, Reza Abadissareï, vous aurez compris que c'est un de mes professeurs de tango, je suis ravie qu'il soit là. Et puis Samy Amadouche, que j'ai rencontré aussi lors de différentes milongas. On fera attention au vocabulaire pour aider les auditeurs, donc c'est bal de tango. Mais Samy, avec un regard différent, un autre type de pratique. On pourrait dire que là, on a deux invités, hein, Stéphanie, un praticien sur l'art, enfin l'art du tango, hein, comment essayer de bien danser le tango, hein, sachant que ça prend des années. Et toi, Samy, tu es bien un danseur, mais c'est sur le plan, j'ose employer le terme un peu clinique, que tu que tu utilises, même si tu es très prudent dans le terme de clinique, mais c'est une clinique du tango où un peu tu te reconnais dans une forme de tango-thérapie, mais on y reviendra.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Ravi de partager et de justement décloisonner les univers, de parler effectivement de toutes les dimensions, a fortiori dans l'univers du tango argentin, il y a énormément de choses. Donc moi, effectivement, j'ai un parcours un peu original. Je suis d'un côté dans les sciences d'innovation, nouvelles technologies, astrophysicien et prof en neurosciences cognitives, et donc sur les processus d'apprentissage, sur le fonctionnement du cerveau. Et c'est assez étonnant puisque c'est la dimension personnelle qui m'a amené à découvrir, il y a une petite quinzaine d'années maintenant, le tango argentin en tant que danse sociale, danse d'expression, danse de créativité en fait. J'ai envie de dire fondamentalement, comme le sont d'ailleurs beaucoup de danses, mais le tango argentin effectivement a des dimensions, on va le développer, assez étonnantes, assez particulières, pas uniques, mais assez particulières, assez soulignées. Et c'est finalement la rencontre entre cet univers personnel et sensible en tant que danseur et mes travaux en neurosciences qui m'ont donné une idée folle, comme j'en ai quelques-unes, en toute simplicité, qui était de penser et de mettre en œuvre, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant, ça s'est fait plutôt hors des frontières de la France, qu'à l'époque les personnes trouvaient ça intéressant, mais un peu exotique pour ne pas dire extraterrestre. Et donc finalement c'est en Australie que j'ai développé cette méthode qui s'appelle donc le neurotango thérapeutique. Qui a plusieurs formes d'usage, dont une forme clinique, puisque un axe fort de sa conception et son développement a été de répondre à la problématique de la pathologie de Parkinson pour réduire les effets, non pas réduire la maladie en tant que telle strictement, même si ça y contribue, mais vraiment un traitement non pharmacologique qui permet aux personnes de retrouver la marche, puisque c'est le fondamental du tango argentin. Et là, il y a quelque chose à la fois de tout à fait sérieux, évidemment, de scientifique, même si on ne se prend pas au sérieux, on fait les choses bien, mais on ne se prend pas au sérieux, et en même temps de très créatif et de très étonnant, voire d'un petit peu extraordinaire, puisqu'effectivement, même dans la pathologie de Parkinson, il y a trois stades, initial, premier tremblement, des troubles plus importants en stade 2, et puis en stade 3, une déficience majeure globale du mouvement et pas seulement de la locomotion. C'est-à-dire que les gens sont extrêmement, complètement, de manière non caricaturale, mais handicapés. Et donc, ce qui est fou, c'est qu'avec cette méthodologie, on peut réussir, avec un certain nombre de séances, de 6 à 8 séances au minimum, à redonner en connexion avec un aidant, donc avec une personne qui a appris la méthode et qui accompagne l'individu qui est concerné par cette pathologie, à retrouver une marche synchronisée, rythmée. Et en fait, on renaît à la marche. Les personnes renaissent à la marche. Donc, c'est assez incroyable. Et ce n'est pas magique. Ça s'explique très bien sur le plan neurophysiologique et neurolocomoteur.
On y reviendra. Je te propose d'y revenir dans la seconde partie de l'émission parce que nos auditeurs ont l'habitude. Il y a toujours à peu près deux grands mouvements dans notre émission. Et là, on voudrait d'abord un petit peu redire aux auditeurs. Je rappelle, les auditeurs d'Aligre FM, écoute philosophie au présent, ne sont ni philosophes et là aujourd'hui, ni forcément connaisseurs du tango. Dans cette première partie, on voudrait parler un petit peu de ce que vous entendez par le tango. Qu'est-ce que c'est que cette danse. Je voudrais alors moi d'abord partir de quelque chose de plus grand puisqu'aujourd'hui on est un petit peu dans la question de la philosophie de la danse. Comment à travers la danse et pas singulièrement le tango, il y a pour nous philosophes une manière de penser autrement le rapport au corps, le rapport au monde, le rapport au réel. Alors je me permets de citer un tout petit livre, nous donnerons en bibliographie pour le podcast ce petit livre de Paul Valéry, Philosophie de la danse, que j'aime beaucoup. Je pars d'une grande définition de la danse, c'est quoi la danse Alors il dit: j'entre tout de suite dans mes idées et je vous dis sans autre préparation que la danse, à mon sens, ne se borne pas à être un exercice, un divertissement, un art ornemental et un jeu de société quelquefois. Elle est chose sérieuse et par certains aspects chose très vénérable. Toute époque qui a compris le corps humain ou qui a éprouvé du moins le sentiment du mystère à cette organisation, de ses ressources, de ses limites, des combinaisons d'énergie et de sensibilité qu'il contient, a cultivé, vénéré la danse. Elle est un art fondamental comme son universalité, son antiquité immémoriale. Et il poursuit en nous expliquant, c'est que la danse est un art déduit de la vie même, puisqu'elle n'est que l'action de l'ensemble du corps humain, mais action transposée dans un monde, dans une sorte d'espace-temps qui n'est plus tout à fait le même que celui de la vie pratique. Alors voilà, la danse, c'est très beau parce qu'il explique dans les pages d'après que finalement, pourquoi l'homme a dansé. Il a dansé parce qu'il a un excès de mouvement et que cet excès de mouvement, il ne savait pas quoi en faire. Et l'homme, en fait, contrairement à l'animal, se regarde. Hein, il prend conscience de lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire de toutes ces possibilités de son corps? Et la danse a été inventée de ce point de vue-là. Stéphanie, tu avais...
La question du tango. Oui, je vais m'inscrire dans la continuité de ce que tu es en train de dire, hein, qui est un très beau texte de Paul Valéry. Tout d'abord, bonjour Samy, bonjour Reza. Voilà, donc en ce qui me concerne, je ne danse pas le tango, mais j'ai découvert le tango, du moins l'esprit du tango, avec un petit livre de Belinda Cannon qui s'appelle « Petit éloge de l'embrassement ». Alors l'embrassement, dans son sens étymologique, de se prendre dans les bras, et dans lequel elle fait en réalité l'éloge du tango, hein, tout le long du livre, à travers une vision très poétique de la relation qui se tisse entre les deux danseurs. Elle s'y intéresse car elle voit dans le tango une métaphore de la vie qui lui permet de trouver des pistes pour savoir comment vivre. Elle écrit, page 12 de cet essai inédit publié chez Folio, « Car le tango se présente comme une mise en danse de la relation, d'une extrême sophistication. Elle est cependant fondée sur l'improvisation qui exige une connexion extrême entre les danseurs, se connecter et improviser. N'est-ce pas le programme de l'existence même ? Voilà, se connecter et improviser. Alors, chers Samy et Reza, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Est-ce que vous diriez, vous aussi, que le tango nous fait comprendre la vie ? Et pourquoi ? Mais d'abord, qu'est-ce que le tango ? Quelle est sa spécificité ? Qu'est-ce qui distingue le tango des autres danses ? Alors, je ne sais pas, peut-être Reza, vous voulez répondre ?
Reza, Reza Bassi-Darey, qui nous fait plaisir.
Oui, bien sûr, entièrement, je me reconnais dans tous ces beaux textes que vous avez cités. Et j'aimerais commencer par dire que, en ce qui me concerne, parce que je ne suis pas ni philosophe, ni théoricien, oui, ni académique, mais en tant que danseur, le tango me permet la danse en général, et en particulier le tango, de me connaître d'abord moi-même.
Ouais, et, c'est très important, ça.
Et ensuite, parce qu'on a parlé de la connexion, de l'expression, de la société, de l'autre. Et bien sûr, tout ça, c'est fondamental. Mais surtout, j'ai envie d'insister sur le fait que la danse, le tango, chaque moment, chaque jour, tout le temps, en fait, c'est une... c'est une pratique, manière de me connaître moi-même avec tous les des aspects que à chaque fois je découvre de moi-même.
Donc c'est par la connexion à l'autre que vous pouvez vous connaître vous-même.
Notamment voilà. Par la connexion avec, on vous avait parlé de la milonga, là, oui, cette soirée qu'on se réunisse dans les cours aussi, que quand je fais une milonga et après je rentre chez moi et je revisionne tout ce qui s'est passé dans une milonga, et je commence à me découvrir encore et encore, et à chaque fois c'est très étonnant que on n'arrête jamais de connaître soi-même de plus en plus.
Donc le tango nous étonne, et donc il y a bien cette dimension d'improvisation, à la fois de connexion d'improvisation qui nous étonne et qui nous ramène à nous-mêmes. Alors voilà.
Tout à fait.
Samy, ton point de vue sur le tango. Qu'est-ce que le tango pour toi ? Comment tu le... On est bien d'accord que c'est la danse, enfin il y en a eu trois historiquement, mais c'est la danse de l'enlacement, ce qu'on appelle en espagnol l'abrazo, qu'il soit cerrado, fermé, ou abierto, ouvert. Mais encore.
Si, el tango argentino es un baile de la vida. Le tango argentin est vraiment, pour moi, la danse de la vie. Je parle à la fois en tant qu'humain, en tant que danseur, mais aussi dans le cadre de mon travail en neurosciences, puisqu'il s'appuie sur quelque chose de fondamental qui fait notre nature d'être humain sur la Terre, puisqu'il s'appuie sur notre bipédie, sur en fait notre capacité à nous mouvoir, ce qui nous différencie fondamentalement effectivement du règne végétal, qui a des capacités de mouvement et d'évolution différentes. Mais en tout cas, cette marche, c'est la marche de la vie. Nous sommes constitués biologiquement pour ça, pour pouvoir marcher en tant que bipède. Nous l'apprenons de manière assez intense et, je dirais, prolongée hein, par rapport à d'autres mammifères quadrupèdes qui, des fois, en quelques minutes, en moins d'une demi-heure, peuvent gambader. Nous, il nous faut des mois, voire bien davantage, pour acquérir la marche. Et puis, lorsqu'on arrive à des périodes plus avancées dans le parcours de la vie, ce qui est le cas de ma chère maman qui vient de fêter il n'y a pas longtemps 91 ans, je vous salue, un abrazo, eh bien, on perd un peu de cette capacité à se mouvoir sur deux pieds. Et c'est intéressant parce que justement, récemment, elle en a bénéficié puisque son parcours de vie l'a amené à travailler son équilibre. Et en fait, on se rend compte que cet outil qu'est le neurotangothérapie, qui s'appuie donc sur la marche synchronisée du tango argentin, c'est vraiment la même chose. Hein. C'est pas dans la même finalité strictement, mais c'est la même chose. On aide les personnes à se connaître, on aide les personnes à se reconstruire dans la marche, que ce soit lié à une pathologie comme Parkinson. On se rend compte aussi que pour d'autres bienfaits, en ce qui concerne Alzheimer, ça va aider à régénérer d'autres en fait, réseaux de la mémoire immédiate, puisqu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, fondamentalement, notre sensibilité n'est pas dissociée de nos deux cerveaux, puisque nous avons deux cerveaux, le cerveau dit supérieur et le cerveau, toute la partie limbique et le cerveau donc, qu'on trouve dans notre bas-ventre, hein, qui est dit aussi le cerveau émotionnel. En fait, c'est un tout. Il n'y a pas de cette segmentation comme il n'y a pas plus de partie gauche ou droite, même s'il y a des prédispositions évidemment fonctionnelles à ce que telle zone du cerveau est plutôt dédiée à celle-là. Mais lorsque les gens ont des accidents, par exemple de la route, eh bien, le cerveau a cette capacité à se remodeler, cette plasticité. Et tout au long de la vie, maintenant, les travaux le montrent bien, depuis une petite trentaine d'années et récemment, cette capacité en fait à construire et à être en interaction finalement avec l'univers, donc c'est-à-dire nous-mêmes, notre corporalité et notre sensibilité, mais aussi le dialogue qu'on a dans la danse et plus largement le dialogue qu'on a dans l'espace social, dans l'espace familial. Hein. Donc c'est vraiment une danse, c'est pour ça que je commençais avec cette idée de la danse de la vie. Et effectivement, il y a plusieurs registres. Il y a celui de la dimension biochimique, c'est-à-dire que ce qui est particulier dans le tango argentin, qu'on identifie très bien en neurosciences, c'est qu'en fait, ça va mobiliser, dans cette cadre de cette marche synchronisée, donc en duo, hein, voire au-delà, puisque moi, j'utilise dans des fins aussi non thérapeutiques, mais créatives dans le monde de l'entreprise ou dans l'enseignement universitaire, dans des groupes, donc là, on peut être plus de deux, mais pour rester dans le tango de la danse et de la marche synchronisée à deux, eh bien, en fait, on va générer au moment, et Belinda Cannon, qui est une amie et qui écrit divinement, donc, et en particulier sur cet ouvrage qui m'a beaucoup touché, vraiment, il y a quelque chose de très intéressant pour comprendre qu'est-ce qui se joue dans la relation, effectivement, de deux êtres. De ces deux personnages qui dansent ensemble et sur le plan donc neurobiologique, eh ben, il y a trois facteurs. Il y a une combinaison comme en bonne cuisine, si j'ose dire, ou en cocktail biochimique. On va avoir l'ocytocine qui est effectivement cet embrassement. C'est-à-dire c'est vraiment ce qui est généré lorsqu'on est en contact avec l'autre depuis l'enfance, hein, un nourrisson, jusqu'à sa mort. En fait, c'est fondamental pour nous. Nous sommes des êtres sociaux. Nous ne pouvons pas vivre. Je ne connais personne qui sache vivre seul depuis l'enfant jusqu'à la période la plus avancée de la vie, seul au fond d'une grotte ou bien sur la cime d'un arbre. Donc cette dynamique-là fait que l'ocytocine est fondamentale. Elle est générée lorsqu'on rentre en contact, lorsqu'on fait justement cet abrasso, cette mise en lien avec l'autre, corporellement. Hein. Donc il y a une dimension kinesthésique fondamentale. et qui est celle d'ailleurs qui est le ressort qu'on utilise pour la thérapie neurotango ou la créativité. L'autre, y en a deux autres en fait, y en a plein d'autres, mais fondamentalement les deux autres, c'est l'endorphine, donc ça c'est lié au mouvement. Mmh. Hein, dès qu'on va faire une activité physique, au bout d'un certain temps, on va produire cette hormone qui va soutenir en fait l'activité, qui va nous permettre de maintenir et de poursuivre. C'est pour ça qu'on peut danser des nuits entières, hein, en tango, ou des jours entiers.
Et la troisième alors ?
Et la troisième, bah, c'est très simplement l'adrénaline. Hein, ouais, donc ouais. Voilà. Et cette combinaison fait que ça génère effectivement un état et de perception aussi des autres sens, c'est-à-dire ce qu'on appelle la perception visuelle, la perception kinesthésique, donc la perception aussi liée à l'équilibre. Aussi plus largement, l'organe le plus important en termes de surface, hein, c'est la peau. Oui. Donc on va sentir l'air que l'on pousse en se déplaçant, on va sentir la charge électrique de notre partenaire. Enfin, il y a plein d'aspects qui sont intuitifs et pas forcément conscients, mais qui sont bien présents. Pour ce qui est, en général, plutôt du rôle du garçon, mais pas strictement de guideur, hein, bien que ce soit une dialectique complètement équitable. Hein, mais c'est lui qui est garant de l'espace, principalement, donc dans quelle direction je vais me déplacer. Donc cette vision dite élargie, hein, où c'est pas seulement ce qu'on regarde droit devant soi, mais vraiment, on a les canaux assez larges, et ça permet de voir ce qui se passe à gauche, à droite, au-delà de la technique de danse, hein, qui permet aussi d'accompagner ça, et de percevoir ce qui se passe et de ressentir les choses. Oui. Donc on est comme dans un écosystème assez particulier, comme si au moment où on est dans la danse, alors dans le bal, c'est pas tout le temps le cas, mais on est dans un état de complète ou de meilleure polysensorialité.
Hein. Alors j'en profite pour rappeler donc aux auditeurs la définition de l'abrasso, et comme ça Julien il prépare la première musique de Pugliese, hein, si c'est possible. Tu me laisses deux petites secondes, Julien. Et voilà, nous, c'est un des représentants de la technique qui est aujourd'hui avec nous. Je conseille aux auditeurs le dictionnaire passionné du tango et je leur lis avec grand plaisir la définition de l'abrasso. Étreinte, enlacement, manière de se prendre dans les bras pour danser. Les vieux milongueros ironisent. Pourquoi prends-tu des cours ? Tu ne sais pas prendre une femme dans tes bras ? Alors prends-la et marche. L'abrasso est l'essence du tango. Les danseurs du monde entier en conviennent, qui en font souvent un mythe, un secret, un graal. À la question toujours reformulée « Pourquoi danse-t-on le tango ?», la réponse des danseurs de bal fuse « Pour l'abrasso ». Entendre par là l'intimité, la connexion, la proximité corporelle, ce secret entre les deux. L'abrasso définit en effet le tango depuis les origines. Au XIXe siècle, celui-ci est la troisième danse à l'utiliser. L'enlacement révolutionnaire instauré dès 1830 par la valse. Mais l'abrasso tanguero va plus loin et devient unique en ce qu'il invente les rôles et l'improvisation. Au gré de la musique, nous aurons à en reparler, Reza, hein, sur ces rôles qui sont aujourd'hui absolument plus genrés. Nous revenons parce que nous écoutons le grand, le très grand Pugliese, A los amigos.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Voilà le grand, le grand, très grand Osvaldo Pugliese que je suis obligée de faire disparaître tout doucement derrière ma voix grâce à Julien, à la technique. Quel dommage. Bon, voilà, mesdames et messieurs, vous connaissez une des grandes références au tango, Osvaldo Pugliese, qui est un homme qu'il faut écouter. Bon, c'est moi qui ai choisi les musiques aujourd'hui et je m'inscris dans vraiment l'idée que le tango est une musique entre le populaire et le savant. Et que voilà, et que ça n'est pas uniquement un divertissement, si, puisque c'est un art, ce n'est donc pas un divertissement. Enfin, encore faudrait-il s'entendre sur le terme divertissement. Et Pugliese, c'est une des grandes références, 1905-1995. Il faut renvoyer immédiatement à un de ses derniers concerts avec Piazzolla, qui sera le dernier musicien que je vous ferai passer aujourd'hui. Sa dernière apparition avec Piazzolla sur scène pour les 50 ans de son orchestre. Il faut aller voir ça sur YouTube. Voilà. Bon, alors Osvaldo Pugliese, c'est une grande référence, bon, qui a été un grand créateur d'une nouvelle manière de battre la mesure, hein, en marquant fortement les temps 1 et 3. Je me sers encore de ce dictionnaire passionné du tango que je recommande. Voilà, un homme qui était également militant, hein, comme on le sait. Il était militant communiste. Il a mis aussi son orchestre au service de multiples causes politiques. Il a été, voilà, une grande référence de Piazzolla, notamment. On pourrait, voilà, parler indéfiniment de Pugliese, mais je vous renvoie au dictionnaire passionné du tango pour bien... pour avoir des références musicales et explicatives de sa musique. Voilà, on y reviendra peut-être à un autre moment. Nous sommes dans le deuxième moment de cette émission. On s'est d'abord demandé qu'est-ce que nos invités entendaient par le tango. Nous sommes maintenant, nous allons explorer cette question du soin. On a déjà bien compris qu'à travers l'abrazo, hein, il y avait quelque chose d'un soin. D'abord, Reza, tu nous as dit un soin, d'abord me connaître moi-même, hein, c'est ce que tu nous as dit, toi, dans ta propre pratique d'artiste, et Samy, ce regard qu'il a vis-à-vis notamment des malades de Parkinson. Stéphanie, je te laisse la parole pour cette
oui,
seconde
effectivement,
partie.
Samy, Reza, que ce soit par une approche artistique ou scientifique, hein, vous nous avez déjà montré que le tango est une danse de la vie, une danse de la connexion, mais aussi... peut-être une danse du soin. Hein. Alors, qu'est-ce que le soin ? Quand on parle du soin, on peut désigner deux choses différentes, mais qui peuvent se rejoindre. Le premier sens, c'est cette idée d'attention, le fait de se soucier de quelque chose, de quelqu'un, et donc par extension, le fait d'avoir des égards et d'être prévenant vis-à-vis d'une personne. Et le second sens, c'est un sens plus médical, hein, le fait de s'occuper de la santé de l'autre. Le soin désigne alors le traitement thérapeutique, hein, et à chaque fois, il y a cette double dimension, psychique et physique. Évidemment, le premier sens renvoie davantage à une relation psychologique et le second à une relation plus physiologique. Oui, voilà. Donc l'idée de que le tango puisse faire office de soin, comme Samy, vous en avez déjà plus particulièrement parlé et témoigné, hein, c'est un sens voilà qui peut être aussi suggéré par une étude scientifique que j'ai trouvée. Alors certainement, vous devez la connaître, hein, qui est apparue dans une revue qui s'appelle, alors excusez mon accent anglais, Journal of Behavioral Addiction, voilà, un article en ligne, hein, qu'on trouve en ligne, dont le titre est « Tango argentin, une autre addiction comportementale », hein, qui a été écrite par trois docteurs spécialistes en addictologie du CHU de Nîmes, et qui ont mené une enquête en 2013 à partir du témoignage de 1129 danseurs qu'ils ont trouvés parmi les abonnés de la revue Tout Tango et qu'ils ont interrogés à partir de trois grilles scientifiques d'évaluation que je n'ai pas le temps de décrire, mais alors quels étaient les critères de l'addiction. Ils parlaient de sensations d'excitation, de fortes envies, voire d'obsession, avec un besoin croissant d'augmenter le temps de danse et une apparition de symptômes physiques de sevrage quand l'activité s'arrête, hein, comme la tristesse, l'inconfort, le picotement dans les jambes. Hein. Et donc cet article veut montrer que le tango peut se présenter comme une addiction, mais une bonne addiction, hein, car les effets positifs sont très clairement majoritaires.
Hein. Oui, plaisir, c'est ça qu'il faut relever.
C'est ça qu'il faut relever.
Il n'y a pas beaucoup de risques. Ouais.
Donc, voilà. C'est une addiction positive. Hein, c'était absolument. Ça qui était intéressant dans cet c'est article. Ça. Plaisir, estime de soi, réduction du stress, amélioration de la santé physique, allant jusqu'à même produire un effet thérapeutique, comme vous venez de le décrire tout à l'heure. Hein, parce que l'article parle des malades de Parkinson et pour les personnes âgées, de prévention des chutes, c'est puisqu'on ça. Travaille l'équilibre, d'amélioration de la vitesse de marche, de rééducation en cas d'AVC. Voilà. Et donc, cet article hein, montre qu'il y a une particularité du tango qui ne se résume pas à un simple exercice physique parce que, je cite l'article, « En effet, cette danse comporte plusieurs spécificités environnementales telles que la manière de s'habiller, la musique, le statut social et le parfum, la sensualité apportée par l'étreinte étroite des partenaires lors de la danse, abrazo, je ne sais pas si je prononce bien, et la possibilité d'embrasser plusieurs partenaires différents. Toutes ces sensations aboutissant à l'ivresse du tango. » Alors voilà, donc pensez-vous, cher Samy Reza, que le tango puisse apporter un soin? Donc ça, vous y avez déjà répondu. Et si oui, lequel? Et peut-être, Reza, vous pourriez répondre là-dessus. Et est-ce que vous trouvez, est-ce que vous retrouvez dans vos pratiques des éléments de cet article? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez aussi dans le tango un possible comportement addictif chez les autres et même chez vous? Voilà.
Alors, Reza Bastidarey. Reza, s'il te plaît. Alors, le soin, la question du soin, avant même la question de l'addiction. Nous, on se connaît, Reza, parce que tu es mon professeur. Voilà, tu es un enseignant magnifique de tango. Et comme toi-même, tu as parlé personnellement en disant que toi, le tango t'aidait à te connaître. Moi, le tango m'aide à me soigner. Alors, on ne rentre pas dans les détails, mais il me semble que même en parlant avec beaucoup de danseurs cet été à Paris, je t'y ai vu aussi beaucoup dehors danser, etc. On s'est tous un peu rencontrés. La communauté des milongueros y milongueras est assez grande sur Paris. En parlant avec les uns et les autres, on se rend compte qu'on vient là aussi pour se soigner, pour prendre soin de soi. Moi, c'est ça qui me plaît dans cet abrazo. Qu'en penses-tu, toi qui es professeur de tango, artiste, hein, vivant le tango, hein, mais vivant au sens même de ton âme, de ton corps?
Est-ce que je peux raconter un petite anecdote?
Ah oui, avec grand
avec plaisir.
Comme j'ai dit au début, je dansais, mais pas de tango. J'étais danseur contemporain, mais je ne connaissais vraiment pas du tout cette pratique, le tango argentin. Et j'avais dans ma chambre un poster de la fameuse dessin de Vinci, l'homme de... Vitruve.
Oui.
J'adorais ça. J'avais une idée, peut-être à partir de ça, créer une chorégraphie contemporaine. Et voilà, c'est pas arrivé. J'ai pas fait ça.
C'est le dessin de l'intersection de la science et de l'art, hein, vraiment.
Aussi. Aussi.
Et les choses ne sont pas dissociées. Au XVIIIe siècle, moi j'aime m'en souvenir en tant que tout petit garçon, j'étais très inspiré par le siècle des Lumières et par cette non ou moindre dichotomie, cette moindre séparation entre l'univers des sciences, par exemple la perspective cavalière, dans l'architecture, dans la peinture, pour aider les sculpteurs. Donc il y a vraiment justement cette nécessité, et c'est ce que permet le tango, je le développerai tout à l'heure, de réunir en fait des univers qui sont... Ouais. Artificiellement dissocié.
De décloisonner,
oui. Reza,
oui.
Reza, reprends ton...
L'anecdote.
L'anecdote, oui.
Et, donc tu avais, voilà...
Des années plus tard, quand j'étais déjà danseur de tango, et même j'avais commencé mon parcours professionnel, et, il y avait cette flashback par rapport à cette dessin que j'avais chez moi. Et aussi le lien qu'il y a, en tout cas dans ma tête, avec le mythe de Andogine, hein, et l'homme Andogine, et je me suis rendu compte que je suis en train de pratiquer le tango. Et j'ai pas pu faire un spectacle de danse contemporaine, une chorégraphie de danse contemporaine sur l'homme qui a quatre jambes et qui marche sur quatre jambes, ou faire le lien avec cette mythologie qu'on était un être avec un tronc commun, mais avec quatre jambes et quatre...
Le mythe d'Aristophane.
Mythe d'Aristophane. Et tango, pour moi, c'est ça. Tango, c'est l'incarnation, mais la génie humaine, enfin, parce que vraiment, ça relève de la génie, cette danse, qu'on a pu, qu'on a senti ce besoin, cette nécessité, comme si qu'on était séparés l'un de l'autre, et on a trouvé la moyen la plus enfin, en tout cas, pour moi, la plus parfaite, pour retrouver cet état qu'avec une autre être, tu es en une connexion parfaite, qu'on ne peut pas dire qu'on est deux personnes qui dansent ensemble, mais c'est une personne, mais qui a, je dis ça dans les cours, des fois aussi, il faut qu'on apprenne de marcher d'une telle façon comme si on est une être, mais qu'on a quatre jambes.
Alors c'est plus qu'une connexion, c'est une fusion. Là, on y est. C'est un désir de fusion, de retrouver une unité première.
Retrouver cette sensation. Ouais. Je ne sais pas comment on peut qualifier.
Oui. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que tu dis de ton témoignage, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'abrasso, de la connexion. Mais c'est vrai que c'est une danse de la marche. Et quelle marche! C'est-à-dire il faut savoir marcher ensemble et celui qui prend le rôle de ce qu'on appelle aujourd'hui le follower, hein, puisque le tango aujourd'hui, il faut le redire à nos auditeurs, est éminemment dégenré. Hein. On ne parle pas de genre, on parle vraiment de rôle et de fonction qu'on adopte dans la danse, si bien que moi je peux être guide, aussi bien que je peux être follower, ça c'est mon rêve d'arriver à être un bon guide. Mais ce qui est intéressant dans ton image, hein, d'arriver à marcher avec quatre jambes et de reculer ensemble, quoi, hein, d'une certaine manière, d'avancer en reculant, en fait, hein, et de créer, de faire connexion en reculant.
Et c'est une belle interprétation aussi de l'homme de Vitruve, hein, qu'on ne voit pas forcément comme ça. Je trouve que c'est très intéressant aussi. Hein,
Le soin, c'est quoi alors, pour toi, finalement, dans cette image qui t'est restée, issue de Léonard de Vinci, est-ce que c'est parce que... Si moi, je prends souvent le rôle de follower, donc je connais la difficulté de marcher en arrière, hein, qui est un état de recherche d'équilibre de quelque chose qui n'est absolument pas naturel. Et en quoi ça apprend quelque chose de soi-même, finalement, hein, de travailler avec le déséquilibre propre peut-être à l'existence, non ? Est-ce que c'est comme ça que tu envisageais cette image ou...
Je pense que c'est un sujet incroyablement vaste et avec beaucoup d'aspects. En tant qu'enseignant et danseur de tango, moi, je pense que je peux m'inscrire sur... dans l'idée de soin, mais plutôt dans le premier sens que vous avez dit.
D'attention à l'autre.
Voilà, attention à l'autre. Ça veut dire, tout mon travail consiste à préparer, comme j'ai parlé de l'individu, préparer l'individu, chacun de nous, pour cette rencontre. Et que cette rencontre se passe le mieux possible jusqu'à trouver cette union ou cette quelque chose de très... très fusionnel, si on peut utiliser ce terme-là. Donc, dans ce sens, c'est ça tout le travail qu'on mène, c'est de préparer ça. Et des fois, je donne cet exemple, de cette façon, j'en parle, que quand je vais danser avec quelqu'un, quand on va danser avec quelqu'un, c'est une rencontre, c'est un rendez-vous très, très important. Donc, ça demande beaucoup de préparation. On se met dans le bras de quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il faut être très, très préparé pour ça, hein, pour que ça se passe bien.
Tout à fait.
Et, sur beaucoup d'aspects. C'est un peu, même quand on a rendez-vous comme ça avec quelqu'un, on essaye de sentir bon, etc. On ne peut pas se permettre d'aller... Tu vois, on a un rendez-vous, d'aller rencontrer quelqu'un qu'on a un rendez-vous avec qui on a un rendez-vous, et de ne pas être secret de ne pas montrer qu'on a certaines tenues, c'est ça.
La préparation à la rencontre, Sami Amadouche.
Dirais aussi une certaine disponibilité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est d'un registre à la fois très intime, c'est-à-dire comment on se sent soi et comment on se rend disponible. Parce que danser, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Reza, danser, c'est se connaître soi et c'est créer un espace de disponibilité vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son corps, vis-à-vis de l'environnement dans lequel on se trouve, et pour pouvoir écouter l'autre, pour pouvoir dialoguer en fait avec l'autre, il faut être disponible. Si on est dans son idée, dans son univers, si on est, comme on dit, fermé, la capacité d'écoute, la capacité est par tous les canaux, puisque ce qui quand même est très particulier dans le tango argentin, qu'on ressent autant, moi j'en parle autant en tant que danseur, pratiquant, et puis j'enseigne aussi d'ailleurs non seulement le neurotango-thérapie, mais aussi le neurotango créatif, qui est un usage non thérapeutique, mais en fait qui aide justement à construire le rapport à son corps, la dynamique du mouvement, à la capacité à écouter l'autre, et y compris dans le monde de l'entreprise et au-delà du couple. Parce qu'en fait, ces enjeux-là, c'est des enjeux universels. C'est vraiment des enjeux fondamentaux, d'être capable de savoir dans quel état je suis, dans l'endroit où je suis, et comment je peux rentrer en dialogue, parce que c'est ça le besoin premier. C'est comment j'existe avec aussi les autres. Mmh. Et non pas au travers des autres, mais vraiment avec les autres. Ouais. Mmh. Et dans le tango argentin, dans le dialogue, ça peut être un homme à un homme, une femme à un homme, avec un rôle de leader, follower, peu importe. Mmh. C'est vraiment quelle relation, quel dialogue finalement j'établis. Et ce dialogue, il est poli et plurisensoriel. Il est à plein d'étages différents. Et ça, c'est assez incroyable. Et c'est effectivement une question qui touche à la partie physiologique, à la partie neurobiologique, c'est-à-dire le fonctionnement de nos sens et du cerveau qui collabore à toute cette perception. Mais si le guideur, il va marcher et il va diriger, ce qui pour moi est complètement décalé, hein, ça n'a jamais été pour moi le tango argentin, et ça n'est surtout pas le tango argentin d'aujourd'hui, et pas plus en thérapie. Il faut qu'il y ait une écoute, il faut qu'il y ait une perception sur lorsque je propose d'aller dans cette dynamique-là, dans cette direction-là, avec cette énergie-là, avec cette vélocité-là, il faut qu'elle soit reçue par le partenaire. Parce que si le partenaire n'est pas prêt, ou si on le bouscule, si on le précipite, ça ne va pas fonctionner. On va le mettre dans un inconfort. Donc il y a vraiment un dialogue, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une série de tangos qu'on appelle la tenda, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste un tango ou 10 tangos, il y en a entre 3 en général et 5, parce que ça permet, surtout quand on n'a jamais dansé ensemble, cette fameuse rencontre, d'établir à différents degrés, déjà sur le plan corporel, quel que soit, qu'on soit petit, grand, gros, maigre, parce que ce n'est pas des caricatures, c'est une réalité, hein. Il y a des différences physiologiques. Souvent, on s'en fait une idée qui est très fausse, puisque pour moi, en tant que danseur comme en tant que scientifique, on peut danser avec n'importe qui, enfin je veux dire avec tout le monde, réellement. Il faut adapter à la morphologie et surtout à cette capacité à comprendre la nature de l'intention et de la communication de chaque être au travers du corps. Oui. Et c'est vraiment ça. Et donc là se joue, pour être un peu technique, l'aspect kinesthésique. Donc, c'est-à-dire la capacité à se mouvoir en connaissant les positions de son corps et en percevant la position du corps du ou de la partenaire sur la partie de la sensibilité, c'est-à-dire avec quelle énergie, avec quelle intention je vais engager un mouvement. Hein. Et puis surtout cette fameuse écoute active, cette écoute qui est polysensorielle, c'est perception par le corps, bien sûr, kinesthésique, mais aussi par la vision, par un certain nombre d'éléments qui sont transmis par cette perception de notre corps et que le cerveau, même de manière complètement intuitive, sans qu'on fasse des études en neurosciences, sait tout à fait traiter, percevoir. Et c'est ça qui fait qu'il y a quelquefois, avec quelques personnes, je ne sais pas si on peut l'appeler fusion, mais en tout cas, il y a une vraie harmonie qui se crée. Et en termes rythmiques, corporellement, il y a ce qu'on appelle la cinétique du corps, l'aspect locomoteur et cinétique du corps, c'est un peu comme si on avait deux instruments qui jouaient des notes, pas la même note, ça peut être des notes simplement complémentaires qui vont créer une harmonie.
Oui, alors ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, hein, la question du soin, moi je m'y reconnais tout à fait, c'est que pour moi le tango, c'est paradoxal, mais c'est à travers un travail spécifique du corps. Hein. Il faut quand même dire aux auditeurs qui n'auraient pas fait de tango que c'est une danse très très exigeante. Hein. Bon, on va pas rentrer là dans les détails, mais il y a une espèce de dissociation entre le bas et le haut qui est très intéressante. Mais c'est vraiment la question finalement de moi en tout cas tel que je le vis, c'est-à-dire une remise en question d'une définition de l'être humain sur le plan de la conscience claire à elle-même. Ce qui est très intéressant dans le tango, c'est que c'est la mise en place à travers voilà, on pourrait dire la connexion de ces deux corps, hein, d'essayer de faire un corps à travers deux singularités, hein, un corps de la danse à travers deux singularités.
C'est un nouveau corps, en fait.
Et c'est la création d'un...
Ça ne remplace pas, ça vient en plus, en mode méta, en fait. Au-dessus, sans notion de hiérarchie, mais au-dessus.
Il y a
les deux individus, c'est indissociable, avec leur propre dynamique, leur propre capacité locomotrice, leur sensibilité. Et puis, il y a ce qu'on crée à ce moment-là. Et
tout
c'est
à
lorsqu'il
fait.
Y a ce dialogue, ou ces dialogues, ces différents niveaux de dialogue, parce qu'il y a effectivement un aspect, en tout cas dans les endorphines, dans tout un tas d'éléments, qui se perçoivent d'un individu à l'autre. Hein. Donc, quand on vient avec une énergie positive, avec un état d'esprit, et donc une physiologie qui répond à ça, hein, si on est plutôt ouvert, plutôt joyeux, ça se ressent.
Oui,
On l'entend, on le voit, ça se ressent. Eh bien, ça favorise par l'effet mimétique. Hein. Ça, c'est le fameux neurone miroir. Hein. En termes de comportement d'apprentissage, c'est comme ça que nous fonctionnons.
Oui.
Hein, et pas que l'humain, d'ailleurs. La majorité des êtres vivants, en tout cas chez les mammifères, on le constate, c'est cette logique-là. Et donc ça, cette mécanique-là, c'est vraiment très fort et ça permet de créer un nouvel être qui est combiné et c'est vraiment une histoire à trois pour
oui,
moi.
Oui, c'est moi ce que, Reza, c'est ce que je ressens quand je fais les cours de tango, c'est-à-dire il y a souvent on me dit il faut que tu fasses taire ta conscience. Là, c'est vraiment la force de cette danse, on pourrait dire aussi de la danse de manière générale, mais particulièrement de cette danse, d'être dans un entre-deux, c'est-à-dire la nécessité d'une certaine réflexion. Toi, tu disais tout à l'heure, quand je sors des milongas, je repasse un peu le film de la milonga, donc ces balles de tango après. Donc, il y a toujours une reprise de ce que nous avons fait ou nous n'avons pas bien fait. Et en même temps, donc toujours cette conscience, cette rationalité, et en même temps, ce lâcher-prise nécessaire pour précisément faire un corps à deux. Est-ce que c'est ce que tu ressens, toi, en tant que danseur professionnel ?
En lien avec tout ce que vous dites, je peux dire... est-ce que je peux dire ce que je... Des fois, dans les cours, je parle de cette façon. Je dis... les règles de mathématiques ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon dans les cours de tango. 1 plus 1... Ça fait combien ?
Deux. Je suis d'accord. Ouais.
Et après, je dis, mais 1 plus 1, ça fait 1. Pour que un jour, ça fasse 3.
Ouais.
C'est ça un
c'est
peu.
Magnifique.
Hein.
C'est vraiment la belle perspective, c'est celle-là.
Je pense que notre démarche, tout le travail qu'on fait, tout le travail préalable et cette disponibilité aussi qui est à construire, c'est pour aller faire corps, faire un avec l'autre. Ça, c'est le démarche, si je peux dire. C'est ce qu'on a à faire.
Ouais.
Le résultat éventuel,
possible,
c'est de... Il y a quelque chose qui va surgir. Il y a quelque chose qui va venir. Et c'est... 3 que...
Ouais,
tu rappelles ta formule alors je sais pas, parce que moi je suis très nulle en mathématiques.
1 plus 1 fait 1, c'est ça ? Pour qu'un jour ça fasse 3,
ouais,
c'est ça ?
1 plus 1 fait 1 pour qu'un jour ça fasse 3.
Très très beau. C'est très très juste et
très, belle,
très 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 beau.
Très belle
vraiment.
Philosophie.
Et oui, il y a cet essentiel-là, je crois, qui peut devenir une quête, et c'est dans ce sens-là où ça va jusqu'à une forme d'addiction, c'est-à-dire que lorsqu'on ressent cette plénitude chez soi et dans le dialogue avec l'autre, et qu'il y a, déjà ça c'est important, et qu'on puisse, et c'est tout à fait atteignable, découvrir, rencontrer, jouir dans le sens le plus simple et le plus noble de ce terme, le dialogue avec, ce qu'on crée ensemble, C'est incroyable. C'est assez incroyable. Et moi, c'est une des raisons, parce que j'ai oublié quand même l'essentiel dans tout ce que je vous ai raconté, c'est qu'on est dans un dialogue infraverbal, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas un seul mot.
C'est les corps, les corps.
Nous qui sommes en plus occidentaux, avec notre culture des sciences,
rationaliste, absolument.
C'est incroyable. On est capable d'interpréter des chansons qu'on connaît, des plus classiques aux plus innovantes, enfin, parce que moi j'aime danser aussi dans d'autres registres, que ce soit Piazzolla ou du néo-tango ou même de l'électro-tango, etc. Sans savoir, moi en tant que danseur et guideur, donc, quelquefois deux secondes avant, ce que je vais enchaîner, ce que je vais proposer à ma partenaire et ce que nous allons créer ensemble. Donc il y a quand même eu quelque chose d'assez remarquable, assez unique et étonnant. Et j'aime à dire que le tango argentin a cette capacité d'évolution, d'adaptation, de diversité aussi, y compris musicale, ce qu'est le jazz à la musique, c'est-à-dire universel, intemporel, et on peut le danser. J'ai eu l'occasion de faire des séminaires, des conférences, des ateliers aux quatre coins du monde, en Chine, en Australie, etc., où j'ai développé la méthode. Vraiment, il y a une diversité et une richesse incroyable et une évolution, une capacité d'évoluer du tango argentin qui est extraordinaire. Donc alors, on ne le lance pas quand même que à Buenos Aires et à Paris.
Heureusement. Ouais. Alors je vais en profiter parce que malheureusement l'heure tourne et j'aurais voulu vraiment qu'on fasse écouter le grand Piazzolla. Là il y a une espèce d'histoire commune entre Pugliese qu'on a entendu tout à l'heure avec A los amigos, aux amis, et maintenant Piazzolla. Merci beaucoup Julien à la technique de nous faire écouter un des grands, grands monsieur du tango.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Julien, voilà, vous n'entendez pas toutes les discussions qui se font hors micro et qui sont des discussions terribles. Non, on ne va pas couper Piazzolla, mais on va encore donner la parole à nos invités qui sont là aujourd'hui, qui nous font l'honneur d'être là. Mais non, mais non, mais non, le temps passe. Nous venons d'écouter à l'instant Monsieur Piazzolla sur Adios Nonino. Bon, on n'a pas le temps de faire l'histoire du tango, hein, mais Piazzolla comme Pugliese, c'est réservé plutôt en fin de soirée. Piazzolla, on ne danse même pas dessus parce que c'est devenu très difficile, sauf pour une approche du tango. Tu en as parlé tout à l'heure, Samy. Voilà, le grand Piazzolla. Et tout à l'heure, je n'ai pas été assez précise. Hein. Si vous voulez voir Piazzolla et Pugliese, c'est leur dernier concert ensemble, vous, au Théâtre d'Amsterdam en 89 sur YouTube. Regardez ça, c'est absolument magnifique, messieurs, dames. Alors, on en termine sur l'addiction, le tango comme addiction. Mais bon, on va arrêter de rigoler. Ce n'est pas de la cocaïne, quand même. Je vous lis une petite définition. Dictionnaire passionné du tango. Mais oui, la Bible, messieurs, dames. Allez-y, achetez-le au seuil. Voici ce qui se dit. Remède et poison à la fois comme le pharmacon grec, vice, drogue ou antidépresseur naturel. Ça, c'est pour moi. La pratique du tango dansé serait une quête toujours recommencée. D'où lui vient ce mystère? Outre la richesse de cette danse et de cette culture, l'abrasso constitue incontestablement un des ressorts de cette dépendance. C'est l'abrasso qui nous condamne et qui nous sauve à la fois, affirme une danseuse. Mais contrairement au drogué qui jouit seul dans sa bulle, le danseur dépasse la faille narcissique pour transcender son propre corps, j'adore, par le rapport à l'autre, à la musique, et atteindre au mieux une certaine sublimation artistique, comme une manière de suivre l'enseignement éthique de Michel Foucault, le grand Michel Foucault, une invitation à faire sa vie comme une œuvre d'art. Personnellement, voilà, pour moi le tango c'est ça. Stéphanie.
Oui, alors
ton petit questionnaire alors juste parationnel.
Pour faire la transition très rapidement, hors antenne, Samy nous confie à quel point on a pu voir que cette addiction était forte, en particulier quand on était confronté au moment où on devait être sevré pendant le Covid. Voilà, donc bon. On enchaîne. J'ai à vous soumettre à tous les deux un petit questionnaire pas trop rationnel, même pas du tout rationnel. Donc je vais vous poser des questions
à toute vitesse, il faut répondre.
auxquelles vous allez devoir répondre absolument sans réfléchir et avec une réponse courte. Voilà, donc peut-être je commence. Reza, quel est votre rêve d'enfant ?
Danser,
wow. Magnifique. Samy, qu'avez-vous envie de dire à la jeunesse ?
De construire dès aujourd'hui, demain, et de vivre chaque instant, de se faire plaisir et d'apprendre avec les autres et ensemble.
Voilà, dans l'esprit du tango, tout à fait. Reza, quelle couleur pourriez-vous associer à votre pratique ?
Cliché, rouge.
Samy, est-ce qu'il y a des choses qui restent mystérieuses pour vous ?
Oh là ! Beaucoup de choses restent et même plus on en découvre, plus on voit qu'il y a de mystères, que ce soit dans le domaine des neurosciences ou dans le domaine en particulier de l'astronomie. Et dans l'astronomie, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait se joue le dialogue céleste entre la Terre, la Lune et le Soleil, comme se joue le bal du tango argentin, où deux personnages sont l'un avec l'autre et tournent autour d'un cercle commun, qui est celui du bal et du groupe.
Reza, avez-vous des talents cachés ?
J'espère.
Une toute dernière, pour qu'il y ait le même nombre. Quel autre métier auriez-vous voulu faire ? Enfin, vous en faites déjà plusieurs, mais Samy.
Probablement celui de conteur.
Alors on va, il est 17h pile, Julien est à la technique. Nous vous allons remercier nos invités qui sont venus nous voir aujourd'hui. Reza Abbassi Darey, voilà un très bon professeur de tango, voilà un artiste pour moi, voilà qui nous a aidé à mieux saisir cette danse. Et puis Samy Amadouche, voilà chercheur et qui fait du tango, voilà un mode de soins cliniques. Nous avions deux soignants ici.
Et créatifs.
Un artiste et un scientifique. Merci beaucoup à tous les auditeurs d'Aligre. Merci Julien. À la technique. À très bientôt. À dans un mois. Au revoir Stéphanie.
Merci à vous.
Au revoir Nathalie.
Merci.
Et Baile para todos, que tout le monde puisse danser, petits et grands.
Super.